Bonsoir et bienvenue à ce tour d'actualité de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 février 2009. La tribune de la presse ce soir jettera un regard sur trois thèmes. Une contre-pétition a été signée hier jeudi à l'Assemblée provinciale du Katanga. Contre-pétition qui réagit à celle signée par quelques députés nationaux appelant à la tenue d'une session extraordinaire consacrée à la présence des troupes rwandaises en RDC. Comme deuxième thème, nous aurons l'Assemblée nationale rwandaise qui a demandé cette semaine la prolongation de l'opération conjointe FRDC armée rwandaise contre les militants Hutus des FDLR au Nord-Kivu. Et comme troisième et dernier thème, nous parlerons des 100 jours d'Adolphe Muzito à la tête du gouvernement congolais. Nous avons invité ce soir pour en parler Crispin Malula, directeur de Canal Congo Télévision et de Radio Liberté Guéména. Il intervient depuis cette ville de la province de l'Équateur. Alain Coy, directeur général du tri-hebdomadaire Africa News, paraissant à Kinshasa. Albert Omba, journaliste de Tropicana FM, une station de radio de Kinshasa. Bienvenue à tous. Commençons cette tribune de la presse par cette revue de presse de quelques journaux de Kinshasa, journaux qui se sont penchés cette semaine sur les trois thèmes que nous abordons ce soir, et notre consoeur Magali Kabale-Banza les a lus pour vous, suivant-la, dans ce condensé de quelques journaux chinois.
Bonsoir. Pour la tempête des tropiques, au sujet de la pétition des députés congolais, dont plus de 250 sur les 500 vient de signer une pétition réclamant la convocation d'une session extraordinaire sur l'intervention militaire rwandaise, le journal signale que l'Assemblée nationale congolaise est toujours réduite au silence. Le contraire constate par ailleurs que l'alliance de la majorité présidentielle traverse une crise sans pareil qui risque de conduire à son implosion. Plusieurs têtes ne sont plus en odeur de sainteté, ajoute la tempête des tropiques. Sur le même sujet, le même journal évoque la demande des députés nationaux rwandais en faveur de la prolongation de l'opération au Nord Kivu. Pour la tempête des tropiques, les observateurs avertis voient dans cette démarche une stratégie consistant à préparer l'opinion publique congolaise à une présence plus longue que prévue au Kivu des militaires de l'armée rwandaise. Évoquant les 100 jours d'Omuzito, le journal Le Phare dit que les premiers jalons ont été posés par rapport aux trois priorités du gouvernement, à savoir la paix à l'Est, l'économie et les grands chantiers de la République. Selon l'entourage du Premier ministre, cité par ce quotidien, Adolphe Muzito estime que la période de rodage est terminée et que l'avion gouvernemental a atteint la vitesse de croisière. Le Premier ministre poursuit le journal, dit pouvoir désormais aller à la conquête de tous les horizons qu'il avait promis aux Congolais. Citons le sondage réalisé par l'Institut des recherches, études des marchés et d'opinion à l'endroit de l'opinion nationale, l'Observateur, autre quotidien chinois, souligne que la première catégorie jusqu'au Muzito 1 n'a pas atteint les trois objectifs qu'il s'était assignés, hormis les fronts diplomatiques, où il s'est largement distingué. Les autres axes continuent à patauger. C'est notamment, selon ce quotidien, le front médiatique au niveau international et à l'est de la RDC. L'Observateur remarque que les médias congolais n'étant pas en mesure d'y accéder, se contentent de traiter une information de seconde main lui fournie par les entreprises de traite étrangères.
Merci Magali Kabale-Banza. Alain Coy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général du tri-hebdomadaire Africa News, un journal paraissant ici à Kinshasa. Y a-t-il d'après vous eu peut-être quelques faits d'actualité que vous avez traités dans votre journal mais que nous n'avons pas sélectionnés?
Moi, je crois, comme je l'avais dit la fois passée...
Des faits importants, l'actualité, cette année.
Je ne vois pas tout ça. Je crois que les trois qui ont été choisis sont suffisants pour qu'on amorce le débat.
Bonsoir également, Albert Romba.
Oui, bonsoir. Claude,
vous êtes journaliste au sein de Tropicana FM, une station de radio de Kinshasa. Peut-être que dans votre rédaction, vous avez aussi traité d'autres faits d'actualité importants qui méritaient de faire partie de cette tribune de la presse, mais peut-être que nous n'y avons pas fait allusion.
Bon, je crois que c'est l'essentiel des faits importants pour la semaine.
Ah, ok. Merci. Même question à vous. Bonsoir d'abord, Crispin Malula.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes directeur de Canal Congo Télévision et de Radio Liberté Guémena dans l'Équateur. Est-ce qu'il s'est passé dans votre ville de Guémena un fait d'actualité important qui mérite peut-être que nos auditeurs puissent connaître?
Je pense que le plus important, c'est le sujet que vous avez aligné aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc, nous passons directement à notre premier thème. C'est cette contre-pétition signée hier jeudi au Katanga par 98 députés provinciaux sur les 102 que compte cette province. Cette pétition des députés provinciaux du Katanga soutient l'opération conjointe rwando-congolaise contre les FDLR au Nord Kivu, pétition opposée à celle de 262 députés nationaux appelant à la tenue d'une session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement sous la présence des troupes rwandaises en RDC, suivant le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, au micro de notre confrère Paulin Munanga.
C'est une pétition qui exprime clairement la volonté des députés de porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'Assemblée provinciale du Katanga totalement rangée derrière le chef de l'État, Joseph Kabila, a décidé de lui transmettre cette pétition pour consolider ce soutien et pour mettre en garde les manœuvriers de Kinshasa avec leurs pétitions. Nous ne remettons même pas, nous rejetons et de telles manœuvres. C'est pour ça que les députés étaient tellement montés qu'ils m'ont demandé immédiatement, tout à fait, c'est ça, de confectionner cette motion de soutien au chef de l'État. La situation de l'Assemblée provinciale ne dépend pas de l'Assemblée nationale. Aucunement. Nous sommes une institution autonome. Lisez la Constitution. Nous dépendons de qui?
C'était la Kyungo wa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga. L'Assemblée provinciale n'a aucune prérogative constitutionnelle d'interdire pour interdire la démarche de l'Assemblée nationale. Réaction de l'initiateur de la motion réclamant la tenue de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux Jean-Louis Ernest Kabiro estiment que la démarche de l'Assemblée provinciale du Katanga n'a aucun fondement. Il a dit au téléphone à notre confrère Innocent Olinga.
Ce n'est pas une assemblée provinciale qui peut demander ou refuser une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Chacun a ses compétences et son champ d'action bien précis. Je ne vois pas ce que les députés provinciaux du Katanga peuvent voir de mal à ce que nous puissions voir les documents. Peut-être qu'ils ont vu les documents que Kigali a signé avec Kinshasa. Mais si on les a vus, pourquoi on ne nous montre pas aussi? C'est tout ce que nous voulons. Quant à la démarche des députés du Katanga, je la respecte. Ils ont aussi leurs arguments. Mais moi, mon argument est un argument de démocratie et de transparence. Et ma démarche est légale, elle correspond à la procédure qui est dans les règlements intérieurs. Au Rwanda, le gouvernement estime que pour envoyer les militaires au Congo, il faut qu'on en discute avec l'Assemblée. Chaque fois, il y a des évaluations qui se font devant l'Assemblée. Au Congo, quand l'Assemblée veut qu'on fasse qu'on discute ouvertement sur la question, on nous traite des sorciers, je ne comprends pas.
Voilà. Merci beaucoup, Alain. Quoi, finalement, cette pétition des 262 députés nationaux appelant à la convocation d'une session extraordinaire prend de plus en plus une autre tournure. Hein. Maintenant, c'est une sorte de guéguerre entre deux institutions du pays.
Il n'y a pas de guéguerre. Je ne vois pas de guéguerre, en tout cas, par rapport à cette question.
D'un côté, il y a les députés nationaux qui ont signé cette pétition appelant à la session extraordinaire sur les opérations conjointes, hein, FRDC armée rwandaise. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même l'Assemblée provinciale du Katanga qui s'oppose.
Non, il n'y a même pas de débat entre les deux. Il n'y a pas de débat du tout. Et Kyungu, ce qu'il est en train de faire, c'est un soutien politique au chef de la majorité. Mais constitutionnellement parlant, je ne vois pas comment sa position peut influer sur ce que l'Assemblée nationale est en train de faire ici. C'est ça la vérité. Moi, je crois que c'est un soutien politique. Il est membre de la majorité et il soutient l'autorité morale de la majorité. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème. Je ne vois pas de débat, je ne vois pas de tournure qu'un tel événement peut prendre ou que telle position peut influer l'autre. Je ne vois rien du tout dans la...
Il faut dire que cette déclaration de l'Assemblée provinciale du Katanga intervient après le point de presse tenu par le président, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui a été très dur, il faut le dire. Il a même qualifié de sorcier ceux qui s'opposaient à cette opération conjointe au Nord Kivu. Albert Omba, votre réaction également par rapport à cette tournure des événements?
Bon, moi, je crois que ce sont des faits différents. Et une assemblée provinciale peut faire une pétition, soutenir sa majorité. Il n'y a pas de problème. Ce qui est, à ce qui concerne la pétition de l'Assemblée nationale, c'est de leur droit.
C'est constitutionnel.
Parce que le problème qui est là, c'est que la guerre, l'entrée de forces armées rwandaises à RDC a coïncidé pendant que l'Assemblée nationale était à congé. Or, c'est un fait. Même si vous suivez la Constitution, pour qu'on déclare la guerre, il faut, ça passe par le Parlement, et les chefs de l'État déclarent la guerre, mais le processus passe par le Parlement. Donc, s'il y a une pétition qui est faite, ce n'est pas pour couper des têtes, c'est pour demander, les chefs de l'État d'ailleurs a déjà donné des explications un peu plus claires sur la situation, mais il faut que ces explications soient soutenues par l'Assemblée nationale, qui ont besoin de quelques éclaircissements. Ces éclaircissements vont aider aussi l'opinion nationale à comprendre l'opportunité de l'arrivée, parce qu'au début, on a dit que c'était des observateurs. Aujourd'hui, ce sont des troupes qui sont sur le terrain. Vous voyez qu'il y a un petit changement. Sur les délais, on dit un mois, et le Rwanda dit non, il faut prolonger. Vous voyez, tous ces petits termes-là, il faut qu'on se mette d'accord pour que l'opinion soit fixée. C'est pourquoi une assemblée nationale extraordinaire, c'est nécessaire aussi.
Merci beaucoup. Et Crispin Maloula, votre réaction?
Je suis vraiment surpris de la réaction des Kiungwakumwanga.
Pourquoi?
Il doit être reposé. Oui, lui, c'est le président d'une assemblée provinciale. Il ne va pas empêcher une assemblée nationale qui a son pouvoir à lui, qui a ses prérogatives, il ne va pas empêcher les gens de raisonner, il ne va pas empêcher les gens de se mouvoir, parce qu'ils jouissent d'une liberté constitutionnelle. Ils ont une garantie de la Constitution. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et que la majorité demande qu'on se mette, et la majorité de l'Assemblée nationale, je ne vois à quoi si nous pouvons intervenir, on y connaît. C'est une flatterie tout simplement. Si je flatte le chef de l'État, mais je lui demanderai qu'il fasse un peu d'attention aux choses publiques, parce que ça, c'est une affaire de l'État. Les hommes qui raisonnent là sont les députés qui ont été mandatés par un peuple. Ils ont reçu le mandat de la population. Ils sont obligés, au nom de cette population qui les a mandatés, de demander à l'organe exécutif de clarifier la situation comme celle des opérations conjointes à l'Est. Je ne vois pas pourquoi l'on doit spéculer autour de cette demande. Moi, je pense que s'ils veulent faire une motion ou une pétition au président de la République, ils n'ont qu'à le faire, mais autant laisser le Parlement national libre. Je crois qu'il n'a pas de compte à rendre à ce Parlement, ce qui est une loi qui m'a.
Merci beaucoup, Christian Maloula. Alain Koy, comment interprétez-vous le fait que au Katanga, on a entendu le gouverneur Moïse Katumbi le dire également, ils ne comprennent pas pourquoi, alors que la situation commence à se rétablir, la paix commence à se rétablir au Nord Kivu, les gens commencent petit à petit à rentrer chez eux, mais pas tout le monde, hein, les déplacés, qu'il y ait cette session extraordinaire. Apparemment, il la trouve sans objet, hein, cette question extraordinaire.
Tomba nous a dit tout à l'heure ici, vous savez, il y a d'abord la question du délai qui se pose. Ils ont dit un mois, ils ont dit autant de jours, et vous voyez déjà au niveau de la province orientale, les tous Ougandais devaient quitter
aujourd'hui. Oui, mais ils sont encore là.
Et nous ne savons pas, avec les Rwandais, ça va prendre combien de temps. Je ne vois aucun mal. Si aujourd'hui l'Assemblée nationale veut voir clair dans tout ce qui se fait à l'Est, je ne vois aucun mal en tout cas jusque-là. Je me dis que c'est tout à fait légitime, c'est une représentation nationale qui demande des comptes à un gouvernement. Donc l'Assemblée nationale est en train de jouer son rôle constitutionnel. Il n'y a aucun problème. Mais le vrai problème qui est en face de nous maintenant, qui va convoquer l'Assemblée nationale, parce que je crois que vous êtes sans ignorer que Vital Kamerhe, comme un journal l'a dit tout à l'heure, qui est le président de l'Assemblée nationale, n'est plus anodé de sainteté au sein même de la majorité. Vous le savez. Que,
pourquoi
on dit qu'il est trop ambitieux. J'aime m'appeler Chacha et puis Chacha. On dit qu'il veut il fait ombrage au chef. Et donc, c'est devenu l'homme à battre. Il me semble, dans l'entourage du chef de l'État, il y a des gens qui pensent ainsi. Et Et puis, on nous disait qu'il est à l'étranger, il est parti aux États-Unis. Et hier, l'œil de bruit, on nous disait qu'il devait rentrer hier soir. Il me semble que jusque là, il n'est pas encore là. Est-ce que Vital aura le courage de convoquer cette assemblée, cette session extraordinaire? C'est la question que tout le monde se pose.
Qui sera très risqué aussi pour lui, en raison de la prise de position qu'il avait.
La prise de position, oui.
Oui, face à cette présence des Rwandais.
Les Rwandais, ça c'est le premier problème. Mais s'il ne les convoque pas, s'il continue en fait dans sa logique, ou s'il reste à l'étranger, est-ce que le Tundu a pu convoquer cette session? Point d'interrogation. Mais si la session extraordinaire n'est pas convoquée, la question reste entière, c'est-à-dire lors de la session ordinaire de mars, la question sera toujours posée. C'est ça le vrai problème. Comment, au niveau des états-majors de partis de la majorité, comment ils réfléchissent pour qu'il n'y ait pas, pour que cette crise qui est en train de fermenter pratiquement au sein de la majorité n'éclate pas vraiment au grand jour? C'est ça la grande question.
Mais est-ce que si ce point est abordé lors d'une session extraordinaire ou d'une session ordinaire, est-ce que ça aura la même ampleur?
Je crois que l'ampleur ne sera pas la même parce que maintenant c'est chaud. Parce que les gens ne savent pas ce qui se fait exactement. Mais si la paix revient à l'est d'ici, la convocation de la session, dans le début de la session ordinaire, il y aura moins de tensions que maintenant. Et vous savez, maintenant, les informations ne circulent pas. Le gouvernement communique, mais si en même temps la rétention de l'information, c'est ça qui inquiète. Mais si l'Assemblée nationale, dans un cadre beaucoup plus formel, convoque le gouvernement qui vient donner des explications, je crois que ça peut apaiser les esprits. Je ne vois pas pourquoi il y a autant d'agitation, je ne vois pas en quoi Katumbi ou l'autre s'amène, et ça ne peut pas inquiéter, parce que je me dis que ce sont des gens, ce sont des leaders de la majorité, qui sont en train d'appuyer les chiffres de la majorité, c'est tout à fait normal. Mais dans le cadre purement formel, ils n'ont pas d'avis à donner.
Merci. Albert Omba, mais finalement, il y a quelque chose, apparemment, les violents ne s'accordent pas dans la même famille politique qu'est la majorité au pouvoir. Parce que, que ce soit Kyungu, Moïse Katumbi ou Kabiro, ils font tous partie de la même famille politique.
Oui, les violents ne s'accordent pas, mais ils doivent s'accorder parce qu'ils doivent défendre un intérêt commun. Il y a une position qui a été prise, il y a une option qui a été levée. L'option, c'est de restaurer la paix à l'Est. Mais les méthodes utilisées semblent un peu poser problème. Alors, comme les méthodes utilisées posent problème, il faut à tout prix qu'on puisse, que l'exécutif donne certaines clarifications sur les délais, l'utilisation des forces, quels sont les engagements qui ont été pris avec le gouvernement rwandais pour venir ici. Ce sont des explications qu'il faut donner à la population congolaise qui a droit de ça. Je ne vois pas comment les gens doivent se tirailler à gauche et à droite.
Mais finalement, que craignent ceux qui ne voudraient pas que cette session extraordinaire sur l'opération conjointe et par des armées rwandaises soit convoquée?
Oui, mais s'ils ne veulent pas, je ne comprends pas pour quelles raisons ils ne veulent pas qu'il y ait une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Parce que c'est au cours de la session que la majorité va préparer ses arguments. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça à l'air, les gens ne comprennent rien. C'est pendant la session, il y aura un débat et tout le monde va dire, voilà, on a amené les troupes pour telle raison, telle raison, telle raison. Ils vont travailler sur telle. C'est d'ailleurs, s'il y a une demande aujourd'hui qu'à la fin du mois, que l'opération n'est pas réussie totalement et qu'il y a nécessité de prolonger l'opération, qui va donner le quitus en dehors de l'Assemblée nationale?
Mais donc vous soutenez que cette session extraordinaire devrait se tenir?
Normalement, devrait se tenir pour aider tout le monde.
Merci. Crispin Malula, vous intervenez à partir de Guémena dans la province de l'Équateur et vous êtes directeur de Canal Congo Télévision et de Radio Liberté Guémena. Votre point de vue aussi à ce sujet?
Excusez-moi. Je pense que le palais du peuple regorge à son sein 500 députés élus de toutes les provinces de la République. Et sur les 500, 262 ont voté pour la tenue de ces assises, soit 52,4%. Et si c'est le peuple, si c'est cette portion de la population à qui nous avons fait confiance, pourquoi on doit s'afficher ou pourquoi on doit afficher que ces assises se tiennent? Moi, je pense qu'il y a tout intérêt que ces assises se tiennent pour tenter d'élucider la situation. Mais je ne vois pas pourquoi on doit en empêcher. Je ne vois vraiment pas pourquoi.
Mais est-ce que vous pensez que cette session extraordinaire, malgré les 262 signatures déjà recueillies, cette session se tiendra?
Mais il faut qu'il se tienne absolument. Parce qu'on dit qu'il faut se référer en dernière minute de Vital Kamerhe qui est président. Vital Kamerhe a été élu député comme les autres. Il a eu le privilège d'être élu président. Mais si c'est sa seule voix qui doit protester les 262 voix, je pense que cette constitution a été taillée sur mesure.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que la majorité puisse plutôt chercher hein, une solution politique à cette question de la session extraordinaire?
Moi, je pense que là, les députés n'ont pas raisonné en termes de la majorité ou de la minorité. Je pense que le député voit les intérêts nationaux. Il voit les intérêts nationaux. Les alliances politiques, c'est une chose, mais protéger les intérêts de la nation congolaise en est une autre.
Merci beaucoup, Christian Malula. Donc, nous allons maintenant aborder notre deuxième thème. L'Assemblée nationale rwandaise a demandé cette semaine la prolongation de l'opération conjointe contre les miliciens Hutu rwandais des FDLR au Nord Kivu. Je vous rappelle d'ailleurs que il y a un bilan à ce, donc, l'attaque qui a été menée hier par la coalition FRDC armée rwandaise hier au Nord Kivu a causé 40 morts et plusieurs blessés à Kachébéré, à près de 20 km du chef-lieu du territoire de Masisi. Donc c'était après une attaque contre les FDLR. Alain Nkoy, je rappelle que vous êtes directeur général du prix hebdomadaire Africa News, donc un journal qui paraît trois fois par semaine ici à Kinshasa. Votre réaction par rapport à cet appel, hein, cette recommandation de l'Assemblée nationale rwandaise?
Ça rejoint ce que nous étions en train de dire ici. Vous savez, au Rwanda, le Parlement est en train de jouer son rôle, mais nous sommes au regret de constater qu'ici, malgré du fait que la pétition a recueilli autant de signatures requises pour convoquer une session extraordinaire, il y a des voix qui s'élèvent de partout pour vilipender des gens qui sont dans une démarche purement constitutionnelle.
Mais il faut dire que l'Assemblée nationale rwandaise hein, s'est penchée sur ce dossier après que l'opération conjointe des FARDC armée rwandaise ait déjà commencé. Ce n'est pas en aval. Hein.
Idem. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose.
Ce n'était pas en amont, excusez-moi.
Oui,
c'est en aval.
C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est en aval et c'est la même chose. Parce que les deux parlements ont été pratiquement consultés, mais ils veulent récupérer la situation pour donner un caractère purement national à ce qui se fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'une clique de gens se sont retirés quelque part pour décider de l'avenir de la nation, alors qu'il y a des élus qui ont été désignés, qui ont été envoyés pour parler en lieu et place de la population. Le problème qui se pose ici, nous ne devons pas ignorer que le Parlement, c'est la représentation nationale. Ces gens qui sont allés là-bas, ils ont le mandat du peuple. Et je crois que c'est vraiment de bon augure que le Parlement rwandais se saisit de la question pour prendre position, carrément, dire non pour nous, pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous voulons que cette opération soit prolongée pour finir une seule fois pour toutes avec le...
Vous pensez que l'Assemblée nationale rwandaise a raison de demander la prolongation de cette opération en évoquant notamment l'immensité du territoire congolais?
Ils ont raison, c'est de bonne guerre. Ils sont en train. Il ne faut pas mettre le Rwanda, l'Assemblée nationale du Rwanda, à notre place. Ils sont en train de jouer un rôle par rapport aux intérêts du Rwanda. Nous, de notre côté, nous devons aussi travailler en fonction de nos intérêts. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Les gens sont en train de voler pratiquement à contre-courant. Ici, il y a le Rwanda, il y a le gouvernement qui est engagé, le Parlement a donné de la voix. De notre côté, ici, vous sentez qu'il y a que le gouvernement qui parle, on empêche le Parlement de parler. Je ne sais pas pourquoi.
Donc, le Rwanda donne là une belle leçon de démocratie au Congo.
Oui, alors que le Parlement est considéré par le monde comme un dictateur. Mais voilà, il laisse le temps à son Parlement. Et je dis que c'est de bonne guerre, c'est pour l'intérêt de la nation. Et si l'Assemblée nationale, si les militaires rwandais peuvent rester longtemps sur les territoires congolais, les Rwandais estiment que c'est pour l'intérêt de son peuple, donc le temps d'évacuer toutes ces forces négatives et pour que la paix règne au Rwanda. Mais ici, les gens ne veulent pas que l'Assemblée intervienne sur cette question, je ne sais pas pourquoi.
Albert Omba, il faut dire que cette recommandation de l'Assemblée rwandaise s'est faite lorsque le ministre de la Défense rwandais était allé rendre compte au Parlement du bilan de cette opération conjointe. Mais ça a été très mal pris, cette proposition de l'Assemblée nationale rwandaise. Ça a été très mal pris par certains Congolais ici qui voient peut-être une tentative de s'éterniser ici au Congo. Comment interprétez-vous cela?
Oui, nous revenons toujours à la question de la convocation de l'Assemblée nationale pour éclaircir un peu la situation. C'est-à-dire, vous savez que la dernière visite de l'armée patriotique rwandaise à territoire congolais avait laissé un goût très amer auprès des populations de l'Est. Maintenant, aujourd'hui, l'Assemblée nationale avait demandé au chef de l'État, à l'exécutif, de restaurer la paix. On a donné fœtus au gouvernement. Et le gouvernement devait agir. Et le gouvernement a commencé par une diplomatie beaucoup plus active qui a abouti à l'arrivée de cette opération. Maintenant, quand une opération militaire est dans le territoire, il faut des explications. C'est ça qui est important. Et un deuxième aspect, c'est l'aspect de neutralisation, pour ne pas répéter le mot, total de la présence FDLR dans le territoire congolais. Comment on peut procéder? Si on va sur le terrain, on verra que le théâtre se déplace vers l'ouest. On a anéanti au nord Kivu, l'axe. Ici, je prends l'axe Rutshuru. Je prends par Nyamilima, Rutshuru, Kiwanja, ainsi de suite, Kabare, Walungu jusqu'au sud. Cet axe s'est développé, s'est déplacé un peu plus vers l'est, l'ouest, en prenant l'Ubero, vous allez vers Itaïto, Mangurujipa, quand vous descendez à Bingo, où il y a le théâtre d'activité. Ils doivent aller plus à l'est, et quand vous allez à Mangurujipa, l'FDP va aller plus loin dans la forêt, vers l'ouest. Vous descendez encore à Calais. Tout ce qui était à Calais, à Walung, ils vont où? Vers Jambouna.
Donc, vous l'avez dit que c'était prévisible, cette demande du côté rwandais de prolongation de cette opération.
Oui, c'est-à-dire, il faut pas donner aux Rwandais l'occasion de dire après que nous avons sollicité la prolongation, vous avez refusé, il y a encore des FDLR à territoire congolais. Donc, c'est seul l'Assemblée nationale qui peut évaluer la question et dire, ok, on évalue et puis on prolonge pour tel délai, de façon qu'il n'y ait plus de prétexte encore pour dire non, c'est parce que vous nous avez demandé de rentrer assez tôt qu'on n'a pas terminé l'opération. Les gens doivent se souvenir, il y a l'AFDEL qui a fait la première opération en 97, il y a encore l'RCD en 98, et puis le CNDP à 2006 ici, et finalement l'armée patriotique rwandaise avec la coalition congolaise ici, c'est le dernier mois. Vous verrez même de l'autre côté où l'Ouganda, le président Museveni a demandé, pendant que l'armée ougandaise devait rentrer aujourd'hui, le président Museveni a demandé aussi qu'il y ait une prolongation pour éliminer toutes les poches de résistance de LRA. C'est la même chose pour les FDLR aussi.
Merci beaucoup. Crispin Malula, alors comment réagissez-vous face à cette demande ou recommandation de l'Assemblée nationale rwandaise?
Comme nous l'avions dit la fois dernière, Claude, le Rwanda ne peut que se réjouir par le fait que ce qui constituait les dangers permanents du pouvoir de Kigali venait d'être neutralisé. Cette prolongation, à mon sens, voudrait dire l'anéantissement total des Hutus rwandais. Qu'à cela ne tienne. Cet accord-là illustre de plus que cette situation n'a pas été initiée en amont, comme vous venez de le dire, avec les deux parties en cause. Il me semble que l'un s'est plus imposé et l'autre s'est trouvé en position de faiblesse à céder. Tous les calculs aujourd'hui se font en aval. Espérons que le gouvernement congolais tiendra bon pour que les Rwandais rentrent à la fin de ce mois. Nous osons faire confiance aux récentes déclarations du ministre Lambert Mende, qui dit que c'est une demande du Parlement rwandais au gouvernement rwandais. La requête n'est pas adressée au gouvernement congolais. Et il ajoute que cette requête ne peut pas remettre à cause les accords signés entre les deux gouvernements. Parce que le fait que l'armée rwandaise soit restée un peu très longtemps dans notre territoire, nous ne savons pas ce qui se cache au-delà, parce que jusque-là, on ne connaît pas les accords qui ont été signés. C'est pourquoi nous disons que le Parlement doit siéger pour essayer de voir clair sur cette question.
Mais Crispin, est-ce que cette intervention de l'armée rwandaise, qui est du reste avalisée par son Parlement, met définitivement fin à un probable dialogue inter-rwandais?
Non, non, bon, c'est pas, hein, parce que moi j'étais en train de craindre également, parce qu'il y a tout un peuple. J'attends la communauté internationale qui ne dit rien, j'attends l'Afrique centrale qui ne bouge pas, la région des Grands Lacs, parce que les Hutus, c'est aussi un peuple qu'il faut protéger. Parce que c'est pas tout le monde qui a été objet de génocide. Moi je pense qu'il fallait également, dans les accords, signer les conditions de protection de ces peuples et aménager les conditions d'accueil dans le pays de retour. Mais quand on est en train de les saccager, les tuer comme on voudrait, et que cela soit une joie pour ceux qui sont au pouvoir au Rwanda, moi je pense que là, si hier on a passé à protéger les Tutsis, pourquoi pas le faire aujourd'hui avec les Hutus?
Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que le gouvernement congolais parle le même langage en ce qui concerne cette prolongation?
Le gouvernement congolais est embarrassé. Si vous avez dit tous les hommes politiques de Kinshasa se rendre au Rwanda pour ceci, pour cela, parce qu'ils sont en train de subir des pressions au niveau national. Ils sont embarrassés. J'ai dit qu'ils ont subi la pression du Rwanda et se trouvent en position de faiblesse et ils ont cédé. Le gouvernement est embarrassé.
Merci beaucoup, Crispin. Donc, votre dernier mot, vos derniers propos nous permettent de passer à notre troisième et dernier thème de cette tribune de la presse. Le Premier ministre Adolphe Muzito a totalisé 100 jours ce mardi 10 février à la tête du gouvernement congolais. Quel bilan faire de ces 100 premiers jours du remplaçant du patriarche Antoine Gizenga à la primature? Notre confrère Guy Matessier est penché, suivons-le dans cette analyse avant de revenir poursuivre cette émission.
Au mois de novembre 2008, lorsque le Premier ministre Adolphe Muzito est investi, il se donne trois priorités, à savoir la paix à l'Est, l'accélération des grands chantiers ainsi que le redressement de l'économie. Sur le plan économique, à ce moment-là, les taux d'échange est de près de 560 francs congolais, le dollar américain avec un taux d'inflation d'environ 25%. Deux événements marquent cette période, à savoir la guerre qui sévit à l'est de la RDC et le début de la crise financière internationale. Le 9 janvier 2009, les taux d'échange est de près de 710 francs congolais, le dollar avec un taux de croissance d'à peu près 8%. Trois jours plus tard, soit le 12 janvier, la monnaie s'apprécie avec un taux de 677 francs congolais, le dollar américain. Cette situation est liée à la réaction du gouvernement qui, pour éponger la masse des francs congolais, va déverser sur le marché 10 millions de dollars américains. Mais cette situation ne dure pas parce que le 6 février 2009, l'on enregistre un taux de 710 francs congolais pour un dollar. Donc, entre le 10 novembre 2008 et le 6 février 2009, le taux des francs congolais connaît une dépréciation de 23%. Au sujet des 5 chantiers de la République, les travaux de modernisation et réhabilitation du boulevard du 5 juin ont été lancés depuis mardi 20 janvier dernier vers le rond-point Mandela dans la ville de Kinshasa. Au Katanga, les travaux de réhabilitation de la route Lubumbashi-Kasumbalesa sont suspendus pour raison des pluies. Les travaux pourraient reprendre au mois de mars prochain. Mais déjà, près de 60 km sont totalement réhabilités entre Kasumbalesa et la place de la Poste. Il en reste 36. Sur le plan sécuritaire, le CNDP déclare le 16 janvier dernier la cessation des hostilités et la mise à la disposition du haut commandement des FRDC de toutes ses forces combattantes en vue de leur intégration dans l'armée nationale. Le 21 janvier 2009 commence l'opération conjointe entre les FRDC et les forces de défense du Rwanda contre les FLR. Le 22 janvier dernier, Laurent Kunda est arrêté au Rwanda. Depuis la fin des hostilités déclarées par le CNDP, on assiste au retour de quelques déplacés dans leur milieu d'origine.
Merci beaucoup, Guy Maté. Je reprends simplement le lancement, hein, papier dico, parce que ça, on dirait que ça avait un peu coupé là. Notre confrère Guy Maté s'y est penché, suivons-le dans cette analyse avant de revenir et poursuivre cette émission. Donc, Alain Nkoy, finalement, quel bilan des 100 premiers jours d'Adolphe Muzito?
Je crois que les 100 jours ont servi à poser les jalons. Si nous pouvons considérer sur le plan sécuritaire que ce qu'ils sont en train de faire à l'Est, c'est déjà la fin de la guerre, c'est une bonne chose. Donc nous pouvons dire que de ce côté-là, Muzito a peut-être 8 ou 10, je ne sais pas. Mais je crois que le vrai problème qui se pose à ce pays ici, c'est d'avoir une armée qui soit capable de protéger les frontières. Et je rappelle qu'à l'époque, Mobutu avait mis beaucoup de moyens. Il a envoyé des officiers en formation aux États-Unis, en Belgique, au Maroc, dans plusieurs pays. Mais lui-même a commencé à détruire cette même armée avec des coups d'État qu'il faisait monter lui-même et puis il faisait démonter. Et tous ces officiers qui ont été formés pour la plupart ont été zigouillés à l'époque. Et il visait dans ses opérations souvent des officiers du Bas-Congo, du Kasaï et du Bandundu. Quand l'Afdel arrive, le peu qui restait encore, il a essayé d'éliminer tout avec l'opération Akitona, je crois que vous vous souvenez.
Bah, mais il ne les a pas tués, hein, il les a envoyés plutôt.
Oui, envoyé plutôt là-bas.
C'est vrai qu'on a dit que certains sont morts.
On laissait les peaux là-bas, d'une manière générale.
Mais c'était fait de façon intentionnelle.
Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais au moins les faits sont là. Aujourd'hui, on a pris, nous avons une armée qui regroupe juste des gens qui sont venus de chez les Maïmaï, qui sont venus des groupes rebelles, qui n'ont aucune formation, qui n'ont pas d'esprit de corps. Aujourd'hui, Mouzouto vient de réussir un coup de massue avec cette opération à l'est du Congo, mais je crois que le vrai problème, c'est de mettre les moyens pour avoir une armée professionnelle et dissuasive. Ça, c'est ce qui est intéressant. Sur le plan purement économique, sur le plan économique, c'est cette situation que nous déplorons. La crise financière internationale est en train de ravager la planète. Et nous devons avoir des solutions que nous ne voyons pas encore jusque-là. Le président a parlé de l'agriculture à relancer. Mais pour résorber la crise actuelle, je crois que ce n'est pas l'agriculture qui va les résoudre.
Donc vous voulez dire que Mouzito a travaillé durant les trois premiers mois dans un contexte de crise financière internationale, qui était quand même un contexte difficile.
Difficile pour lui. Et du côté de construction, je crois qu'il se débrouille encore tant bien que mal. Il faut lui laisser le temps. Les 100 jours ne suffisent pas pour le juger d'une manière objective. Voilà un peu.
Merci beaucoup, Albert Omba. Oui, moi je crois que, à ce qui concerne le côté sécuritaire, c'est quand même il y a une avancée significative. Parce que la paix s'est rétablie, malgré qu'elle n'est pas totale maintenant à l'Est, mais elle s'est rétablie quand même avec une diplomatie active que le gouvernement Mouzito a pu initier. Et les résultats sont là, je crois que la paix va vers son cheminement probable. Là, on ne parle pas trop. Alors, au niveau de l'économie, c'est là où...
Mais avant de parler de la paix, mais il y a quand même certains Congolais qui élèvent leur voix pour dire que c'est vrai que les troupes du CNDP sont en train d'être intégrées au sein des FRDC, mais il y a quand même des choses à redire. Hein. Une entrée comme ça sont beaucoup, beaucoup... Enfin, il y a des démobilisés, notamment de l'armée rwandaise qui faisait partie du CNDP, selon un rapport des Nations Unies. Ce même rapport fait état également de l'appui dont bénéficiaient les FRDC de la part de certains FDLR, hein, ou tout rwandais. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une armée où il y a tout le monde, des gens dont certains, pour certaines, hein, on ignore la nationalité?
Oui, je crois que pendant l'intégration, on prend tout le monde. Le triage s'est fait pendant l'opération de brassage. C'est pendant le brassage qu'on va identifier chaque soldat. On va voir s'il est capable d'évoluer dans l'armée ou pas. Et là, ça se fait volontairement. On peut vous intégrer aujourd'hui, mais pendant le brassage, on estime que vous n'êtes pas physiquement capable de continuer dans l'armée. Il y a tel ou tel. Il y a beaucoup de critères qui, c'est pendant cette opération-là qu'on peut dissocier les éléments étrangers de ceci, de cela. Et ça se fait quand même d'une façon un peu plus claire. Il y a des méthodes qu'on utilise pour ça.
Vous êtes optimiste?
Je suis optimiste, surtout que grâce à cette...
Est-ce que ça ne posera pas de problème demain? On l'a vu avec l'arrivée des troupes de l'AFDEL ici en 1998.
Oui, le problème, c'est lequel?
Où le chef d'état-major James Kabarega avait été présenté comme un Congolais.
Oui, là.
Aujourd'hui, il est chef d'état-major général de l'armée rwandaise.
Le contexte AFDEL, quand il est arrivé, c'est un contexte que vous avez vu quand le roi de Kabila s'est ressaisi. Il a demandé aux autres, à James Kabarega et les autres, de rentrer au Rwanda. Ça, tout le monde le sait. Et c'est ce qui est d'ailleurs à l'origine de tous les malheurs que le roi de Kabila va connaître.
Donc, on sait ce qu'il y a eu après, hein.
Voilà. Donc, c'est parce que quand on vient, il y a une alliance, on avance, mais avec le temps, nous serons dissociés. Parce que vous vous souviendrez que beaucoup d'éléments qui étaient dans l'AFDEL ne sont pas rentrés. D'autres sont restés dans l'RCD, ils ne voulaient pas intégrer le FARDC. Et finalement, à la fin des comptes,
Il y a eu les mixages, ils n'ont toujours pas intégré. Aujourd'hui, s'ils intègrent, il y aura quand même une opération.
Pour sur le plan économique, rapidement.
Sur le plan économique, c'est là où les Romains s'appoignent. Il y a vraiment beaucoup à redire, parce que la crise, on a vu que l'inflation qui était prévue à 7% au courant de l'année a évolué à plus de deux chiffres, 23, 26, juste au début de l'année. Pendant qu'on a
et
même pas
8% pour le seul mois de janvier.
Alors qu'on n'a même pas encore exécuté le budget. Donc, il y a des remous. Mozite doit s'attendre à des remous d'ici le mois de mars. Il y aura beaucoup de remous sociaux parce que quand on va appliquer les barèmes que les gens attendent, c'est à ce moment-là que nous verrons comment il va s'en sortir.
Et l'application du SMIG pose aussi problème. Hein?
Oui, c'est parce que les hommes d'affaires congolais, il faut qu'ils soient aussi honnêtes. Ils savent que si le président a demandé de relever un peu les niveaux de vie des Congolais, des travailleurs congolais, ils doivent quand même être honnêtes. Parce que si on doit atteindre 5 dollars comme SMIG, 3 dollars plutôt. Mais la tendance va vers 5 dollars, 10 dollars. Et ça, on ne peut pas aujourd'hui accepter 3 dollars. Et comment on va traiter un travailleur congolais?
Merci beaucoup, Crispin Malula. Quel bilan faites-vous à Guéména, dans l'Équateur, des 100 premiers jours d'Adolphe Mouzite? Est-ce que vous avez senti à l'intérieur du pays un certain changement, une certaine amélioration?
Absolument pas. Je vais répondre sur les trois paramètres, la sécurité, l'économie et le 5 chantiers. Nous pensons que M. Adolphe Mozito est arrivé aux commandes du gouvernement congolais pour raison d'efficacité. C'est alors qu'il s'est assigné des objectifs que vous venez d'énumérer tout à l'heure, la paix ou la sécurité à l'Est, l'économie et les 5 chantiers du chef de l'État. Si nous parlons à terme de bilan, nous voudrions peser le point positif par rapport au négatif. 5 jours, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu en termes de signaux. Je ne voudrais pas que le Premier ministre se tape la poitrine pour les opérations conjointes par DCAPR à l'Est. Il ne faut non plus qu'on lui attribue la gloire du succès de ces opérations, s'il y en a. Parce que lui-même, à ce temps, ne connaissait ni les tenants et les aboutissants de ces opérations. En lieu et place du gouvernement, c'est un général qui prend le défi pour engager toute une nation. Ce sont des insuffisances gouvernementales graves à enregistrer dans le chef de M. Adolphe Mozito. S'agissant de l'économie, je démissionnerais si j'étais à sa place. On n'a jamais connu, On n'a jamais connu les genres d'inflation aussi galopantes que celle de Mozito. Les paramètres économiques ne sont jamais maîtrisés. Les pouvoirs d'achat est nul. Les salaires des enseignants fonctionnaient non seulement dérisoires, mais aussi toujours en retard.
Mais il y a eu quand même, Crispin, il y a eu quand même la crise financière internationale qui a frappé le monde entier, même les pays industrialisés.
D'accord, mais si cette crise a frappé le monde entier, en Congo, au Congo-Brazza, au Gabon, au Gabon, à Côte d'Ivoire, les conditions des fonctionnaires, des enseignants, ne sont pas les conditions de nos enseignants congolais aujourd'hui. Parce que les fonctionnaires congolais n'ont pas droit à l'épargne, ils n'ont pas droit aux soins médicaux, pas de transport, pas de loyer. En plus, ils ne peuvent pas faire face aux frais scolaires de leurs enfants. Les 5 chantiers du chef de l'État, c'est le slogan le plus populaire du moment, mais avec un impact négatif, du moins dans l'espace géographique qui est le mien. Franchement, Claude, je ne sais pas si je peux parler d'une discrimination régionale. À l'Équateur, par exemple, pas une seule route entretenue. Je dis bien, pas une seule route, pas un seul hôpital réhabilité, pas d'école construite ou réaménagée. Il n'y a pas de l'eau courante, ni de l'électricité. Qu'est-ce que Mozito a planifié pour la province de l'Équateur? Ou quel péché cette province a commis pour qu'il soit stationné? On entend partout parler de chemins, de routes à Katumbaleta, au Katanga, un peu presque partout, mais à l'Équateur.
Mais vous-même, vous dites que 100 jours, c'est assez peu hein, pour le juger. Est-ce qu'il ne vous faudrait pas un peu de patience?
Non, j'ai parlé que 100 jours, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup en termes de signaux. Les signaux, quels sont les signaux forts que M. Adolphe Mozito a donné dans la province de l'Équateur? Qu'est-ce qu'on peut noter dans son actif dans la province de l'Équateur?
Merci.
Sinon, la misère. Oui, oui.
Merci. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes obligés de terminer par vous cette émission. Donc, merci à vous, Crispin Maloula, de Radio Liberté, Canal Congo Télévision Guémena, Alain Coy, du tri hebdomadaire Quinois Africa News, et Albert Omba, de Tropicana FM, une station de radio de Kinshasa. Chanson Tumba Kamanga a réalisé ce programme hebdomadaire avec les journalistes. Et Paul Badeniam a été à la mise en onde. Merci à Guy Maté, Magali Kabale, Banza et Aurélie Moupapa de vous avoir préparé cette émission. Sous la coordination de Ben Kabamba, en leur nom, je vous dis au revoir et bon week-end. Ne quittez pas, restez branchés sur Radio Kapi.